Bonjour, 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 bonjour à tous, à toutes. Aujourd'hui, c'est de nouveau Amnesty sur l'antenne de Radio FM+. Alors, en ce mois de juin, nous allons vous parler de nos thèmes favoris. Alors, on va vous parler de la Tchétchénie, on va vous parler de la Colombie, et on va vous parler de notre appel pour une politique respectueuse des droits humains. Et puis, pour finir, comme d'habitude, on fera un petit moment culturel, parce qu'il y a quand même beaucoup de livres, beaucoup de films, beaucoup de choses à voir qui concernent les droits humains et qui sont parfois un peu plus ludiques. Alors on va commencer par la Tchétchénie puisque c'est extrêmement urgent et c'est quelque chose d'actualité puisque notre nouveau président a rencontré le président Poutine et apparemment lui en a même parlé. Alors qu'est-ce qui se passe en Tchétchénie, ce petit pays dont le président est monsieur Ramzan Kadyrov? Eh bien, en Tchétchénie, le droit des homosexuels non seulement n'est pas reconnu, mais les homosexuels sont absolument persécutés, enlevés, torturés, dans une impunité absolument totale, d'autant plus que le président, M. Kadyrov, nie toute vexation, toute arrestation, puisqu'il dit lui-même que de toute façon, il n'y a pas d'homosexuels en Tchétchénie, c'est un problème qui n'existe pas. Donc, selon le quotidien indépendant russe Novaya Gazeta, il y a des centaines d'hommes qui ont été enlevés en Tchétchénie. Ça paraît quand même incroyable dans un monde ou dans des pays qui sont soi-disant des démocraties. Donc, des hommes ont été enlevés uniquement en raison de leur soi-disant appartenance à la communauté homosexuelle. Ils ont été torturés, ils ont subi des mauvais traitements. Alors, ces informations, nous les connaissons parce que certaines personnes ont pu échapper. Et il y a actuellement un réseau de personnes en Russie qui, de façon extrêmement courageuse, organisent des exfiltrations pour les personnes homosexuelles en Tchétchénie. Et le journal, d'ailleurs, lui-même, Novaya Gazeta, a pris des risques puisque vous savez qu'en Russie, les médias sont contrôlés par le pouvoir et que parfois, quand ils annoncent des choses qui ne plaisent pas, leurs journalistes risquent d'être arrêtés et le journal fermé. Et donc, d'après ces informations, certains de ces hommes enlevés auraient été rendus à leur famille. Alors, on ne sait pas contre quoi, probablement contre de l'argent. Ou simplement parce que les ravisseurs n'ont pas pu vérifier leur orientation sexuelle. Bon, ceci dit, vu le climat homophobe qui règne dans ce pays, ils risquent à tout moment de nouveau d'être enlevés ou d'être interpellés. Y a une ONG en Russie qui s'appelle Russian LGBT Network qui a confirmé donc ces informations. Et donc ce sont eux qui ont ouvert cette ligne téléphonique, en fait, c'est un numéro d'urgence pour aider toutes les personnes qui auraient besoin de se mettre en sécurité en dehors de la région. Donc, c'est fait en Russie parce qu'en Tchétchénie, le pouvoir n'autorise pas ce genre de choses, puisque de toute façon, le pouvoir n'autorise même pas les journalistes étrangers à se rendre dans ce pays pour enquêter ou pour vérifier ce qui se passe. Donc, c'est à partir de la Russie, pays limitrophe, que cette ONG a pu mettre en place ce numéro d'urgence. Mais alors, comme toujours, quand il y a un numéro d'urgence, forcément, il y a des gens qui essayent de mettre des faux numéros, donc c'est très compliqué. Sur Internet, parfois, il y a un faux numéro, donc les gens appellent et en fait, ils se retrouvent pris par des gens homophobes. Donc tout ça est extraordinairement compliqué. Et les réactions des autorités tchétchènes, elles ont commencé par le déni, voilà. Monsieur l'attaché de presse du président de la République a dit que tout ça était absolument faux. Ensuite, il a dû quand même annoncer devant le tollé de la communauté internationale qu'il allait vérifier les informations relatives à la persécution présumée d'hommes d'orientation non traditionnelle, c'est-à-dire ils ne peuvent même pas prononcer le mot homosexuel. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, vous savez, parfois on vous a parlé à Amnesty de ce qu'on appelle les crimes d'honneur, bon, qui concernent, dans certains pays malheureusement, des femmes qui sont assassinées parce qu'elles sont sorties ou elles ont eu des relations avec des hommes et leur famille n'était pas d'accord. Eh bien, ces crimes d'honneur en Tchétchénie, c'est quelque chose qui existe, qui existent contre les personnes perçues comme gays ou étant gays, et donc qui sont tuées par les membres de leur propre famille. Et ces responsables de crimes, exactement de la même façon ce qui se passe pour les femmes, restent complètement impunis. Et malgré des témoignages, malgré des vidéos qui ont été publiées sur Internet, malgré des informations sérieuses, eh bien, ces crimes d'honneur sont considérés par le gouvernement tchétchène et dans une grande partie du Caucase du Nord comme quelque chose de tout à fait normal. Il y a une personne qui s'appelle Keda Saratova, qui est membre du Conseil des droits de l'homme sous l'égide du président de Tchétchénie, avait commenté dans un premier temps que la société tchétchène traiterait quiconque aurait tué un proche homosexuel. Et puis, finalement, ça n'a absolument pas été suivi. Et donc, elle a dû accepter l'idée que peut-être il n'y avait pas vraiment, on n'avait pas assez de preuves. Bon. Ce qui se passe dans ce pays, c'est que les autorités... Bon, c'est un pays qui, en fait, qui n'est pas du tout une démocratie. Et le président Ramzan Kadyrov contrôle toutes les sphères de la société. Donc toute forme de dissidence est réprimée, les défenseurs des droits humains aussi, les médias, les militants politiques. Et comme je disais tout à l'heure, les journalistes étrangers n'ont pas le droit d'entrer. C'est une des raisons pour lesquelles parfois on se dit « Mais pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'images ?» Parce que tout d'un coup, on a l'impression que cette histoire des droits des homosexuels en Tchétchénie arrive. Mais c'est parce que justement, les observateurs étrangers n'ont pas le droit, même pas d'enquêter, mais ils n'ont pas le droit de s'y rendre. Donc forcément, il y a très peu d'images, et on sait malheureusement aujourd'hui que quand il y a peu d'images, eh ben c'est toujours plus difficile d'expliquer ce qui se passe et de faire prendre conscience aux gens des horreurs qui se passent dans ce pays. Donc c'est vraiment très important que nous avons une pétition sur le site d'Amnesty pour exiger premièrement de faire la lumière sur toutes ces exactions. Hein, demander au président de Tchétchénie, monsieur Kadyrov, d'enquêter, de protéger les citoyens, de mettre à l'abri les personnes en danger, et de faire pression également sur le président Poutine, qui a une influence plus qu'importante sur le président de la Tchétchénie, pour qu'il mette fin à ses crimes. Hein, c'est vraiment, on a rarement vu ces dernières années des choses aussi épouvantables qui se passent concernant les droits des personnes à leur orientation sexuelle que ce qui se passe actuellement en Tchétchénie. Donc vraiment, je vous invite à aller sur le site d'amnesty.fr. Vous verrez, j'en vous en reparlerai tout à l'heure. Nous avons un site de pétition. Et signer la pétition pour le droit des homosexuels en Tchétchénie. D'ailleurs, à ce propos, on vous rappelle que Amnesty International défend la liberté d'expression et lutte contre toutes les discriminations. Et donc, que Amnesty soutient la marche des fiertés qui a lieu chaque année dans beaucoup de pays. Elle a lieu à Montpellier le 8 juillet. Donc n'hésitez pas à vous y rendre pour défendre vous aussi, voilà, la liberté d'expression et l'orientation sexuelle de toutes les personnes. Voilà, c'était notre information sur la Tchétchénie. Pour passer à quelque chose de plus agréable, je vais vous donner quelques bonnes nouvelles parce que quand même, à Amnesty, vous savez que toutes les pétitions que nous faisons, toutes les pressions que nous essayons de faire auprès des gouvernements, les sensibilisations, eh bien, souvent portent leurs fruits et ont des bons résultats. Alors, une bonne nouvelle de quelque chose dont on vous avait déjà parlé, c'était au Tchad, le procès de Hissen Habré, qui avait été condamné en première instance. Hein, Hissen Habré est donc ce dictateur qui a fait des millions et des millions de victimes, de personnes disparues, de personnes torturées au Tchad, et dont un procès exemplaire s'était tenu. Eh bien, bien sûr, les avocats d'Hissen Habré avaient fait appel de cette décision. Et le 27 avril, donc les chambres africaines extraordinaires, ils ont donc confirmé en appel la condamnation de cet ancien dictateur, de Hissène Habré, à la prison à vie, ce qui est une excellente chose. Et de plus, il y a un fonds d'indemnisation qui va être créé, puisqu'il a été aussi également condamné à payer l'équivalent de 125 millions d'euros aux 7400 victimes qui ont pu témoigner. 7400 victimes, donc c'est énorme. Bien sûr, il y en a eu beaucoup plus, mais elles n'ont pas pu toutes témoigner. En tout cas, nous espérons très fortement que ce fonds d'indemnisation et ce fonds de réparation puissent exister pour que au moins ces personnes puissent être indemnisées. Et donc Amnesty International veillera à ce que ce fonds existe vraiment. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle, un peu plus légère, celle-là. C'est en cette période où nous mangeons tous des fraises. Eh bien, figurez-vous qu'en Grèce, il y a des gens qui cueillent des fraises. Alors, ce ne sont pas des Grecs, ce sont des ouvriers bangladais qui viennent du Bangladesh. C'est la mondialisation. Et donc, ces ouvriers dans le sud de la Grèce cueillent des fraises dans des conditions qui ne sont vraiment pas respectueuses des droits de l'homme. Ça, vous pouvez bien vous en douter. Et en 2013, ça fait donc maintenant 4 ans, ces ouvriers avaient eu le malheur de vouloir s'insurger contre leurs conditions de travail, mais surtout ils réclamaient le versement des salaires impayés. Eh bien, leurs employeurs avaient ouvert le feu, voilà, ils avaient tiré sur les ouvriers et ils en avaient quand même blessé 30. Amnesty International avait dépêché un enquêteur qui avait rencontré ces travailleurs migrants et qui avait recueilli leur témoignage. Amnesty avait bien sûr pu constater les conditions déplorables dans lesquelles ils vivaient. Et finalement, ces employés ont remporté une victoire devant la Cour européenne des droits de l'homme, bon, malgré qu'il ait fallu 4 années. Et les salaires qui n'ont toujours pas été payés, bien sûr, bon, depuis ce temps d'ailleurs, une grande partie de ces ouvriers ne travaillent plus en Grèce, eh bien, les conditions de travail déplorables ont été reconnues, des indemnités vont leur être versées, et l'argent qu'ils n'avaient pas eu à cette époque va leur être donné. Alors, c'est une toute petite victoire pour ces cueilleurs de fraises, mais c'est quelque chose d'important qui montre que, eh bien, il faut toujours lutter pour les droits de l'humain et que ces travailleurs qui, a priori, n'avaient aucune chance d'obtenir réparation ont pu, grâce à leur acharnement, grâce effectivement au programme d'Europe d'Amnesty qui les a soutenus et à d'autres acteurs et à d'autres associations également en Grèce, eh bien, remporter cette victoire. Donc, bravo pour ces cueilleurs de fraises. Et peut-être que comme ça, quand nous mangerons des fraises, nous serons un petit peu plus attentifs, nous aussi, aux conditions dans lesquelles elles ont été cueillies. Voilà pour cette partie. Nous revoilà, c'est Amnesty. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de la Colombie. On en a parlé un petit peu il y a longtemps, on en reparle aujourd'hui. Alors pourquoi on vous en reparle aujourd'hui? Parce que, voilà, qu'est-ce qui se passe en Colombie? La Colombie, vous savez, c'est ce grand pays qui, pendant 50 ans, où il a été victime d'une guerre meurtrière dont la population civile a fait les frais. Une guerre meurtrière entre des guérillas d'extrême gauche, les FARC, l'armée du pouvoir et des groupes paramilitaires. Cette guerre, elle a fait 220 000 morts, 60 000 disparus et plus de 7 millions de personnes déplacées. Et aujourd'hui, il y a eu des accords de paix en 2016. Donc, c'est une très très bonne chose pour les Colombiens, une très bonne nouvelle. Un accord de paix qui a été voté par la population, malgré, comme tous les accords, des imperfections. Et aujourd'hui en Colombie, maintenant que la paix est revenue, on découvre des milliers de fosses communes qui sont mises à jour dans tout le pays. Dans des villes, autour de villes très importantes comme Medellín, dans des quartiers. Et les personnes touchées par les disparitions et les morts essayent de retrouver les personnes disparues. Juste pour rappel, entre 2000 et 2010, on a vraiment connu ce qu'on a appelé les années noires de la présidence, parce que le gouvernement a laissé prospérer des groupes armés d'extrême droite, qu'on a appelés les groupes paramilitaires, en les utilisant contre la guérilla des forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC. Et en fait, tous ces groupes, que ce soit les FARC, les paramilitaires, occupaient des zones, faisaient des exactions contre les populations, obligeaient les paysans à cultiver pour eux, obligeaient les paysans souvent à détruire leurs champs pour cultiver de la coca, parce que tous ces groupes, que ce soit les FARC, comme les groupes paramilitaires, comme l'armée, faisaient, pour avoir de l'argent, faisaient ce trafic de cocaïne. Les populations civiles étaient complètement prises en étau, quelle que soit leur sympathie pour l'un ou l'autre groupe. Et aujourd'hui, c'est grâce au processus de paix, les combattants de la guérilla des FARC ont déposé les armes. L'armée ne va plus dans les villages, n'enlève plus des gens, et les gens peuvent continuer à vivre. Quant aux groupes paramilitaires, ils sont officiellement dissous, mais il faut qu'il y ait énormément de vigilance par rapport à ça, parce que, comme toujours dans un processus de paix, les choses ne s'arrêtent pas du jour au lendemain. Donc il y a une commission, comme souvent dans les pays qui ont obtenu un processus de paix, une commission qui essaye de faire la justice et qui essaye de faire la vérité sur les massacres, les assassinats et les disparitions forcées. Et c'est d'ailleurs ce que les Colombiens réclament, hein, parce qu'il faut toujours se souvenir que lorsqu'il y a une guerre, ce sont les civils qui sont les principales victimes du conflit. Et donc aujourd'hui, ces civils se sont organisés en association pour essayer de faire la lumière, hein, sur ce qui s'est passé. Et les institutions, elles ont mis en place quelque chose qu'elles ont appelé la justice transitionnelle, qui est donc chargée pendant les 10 prochaines années d'élucider les crimes et de juger les responsables. Alors, entre cet accord de paix dont on a beaucoup parlé, il est difficile, il est compliqué, parce que après ce demi-siècle quand même de guerre, hein, de massacres, d'assassinats, de tortures, de violences sexuelles, de disparitions forcées, il faut que tout le monde vive ensemble. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il faut d'abord élucider les crimes, puisque bien entendu, les personnes qui ont subi des atteintes réclament justice. Il faut parfois se retrouver dans son village ou dans sa ville avec ses anciens bourreaux. Et donc, les institutions, le Congrès, a approuvé donc la réforme pour créer des juridictions spéciales de paix, dans lesquelles vont venir témoigner des personnes victimes, mais vont venir aussi témoigner des personnes auteurs. Et cette juridiction spéciale de paix, elle s'est dotée d'une unité spéciale pour la recherche des personnes données disparues en raison du conflit armé. Donc c'est un système, hein, qui est mis en place dans le cadre d'un système intégral de justice, de vérité, de réparation et de non-répétition. Parce que l'objectif, c'est ça, c'est que ces choses-là ne se reproduisent plus jamais. Donc cette juridiction spéciale, elle est composée de 51 magistrats colombiens et de 18 experts internationaux, qui est donc chargé de sanctionner les coupables de crimes commis en raison du conflit. Alors ça concerne à peu près les 7000 guerrilleros des FARC qui viennent de se regrouper et de rendre leurs armes. Et donc, hier, le 1er juin, la date limite pour que tous les protagonistes armés rendent leurs armes et se présente officiellement avec une liste de noms. Donc c'est très important parce que ça veut dire qu'à partir du moment où officiellement les gens ont rendu leurs armes, le processus de réparation va pouvoir commencer et ces unités de recherche pour les personnes disparues vont pouvoir avoir des données qu'elles vont présenter dans les cours de justice. Donc tous ceux qui vont avouer leur forfait, hein, donc les auteurs, et tous ceux qui accepteront d'indemniser les victimes pourront bénéficier de peines réduites ou des peines alternatives. Parce que évidemment, pour certains le déplorent, mais dans un processus de paix et de réconciliation, il faut bien accepter que même parfois les auteurs de violations des droits de l'homme doivent réparer, et pour qu'ils acceptent ça, on ne peut pas envoyer tout le monde en prison pendant une éternité, sinon les accords de paix ne pouvaient pas exister. Et donc, il y a une loi d'amnistie qui a été faite en Colombie, qui a été adoptée très récemment, en décembre 2016, qui permet aux guérilleros qui sont coupables de délits uniquement politiques, qui n'ont pas de sang sur les mains, d'échapper à toute condamnation à la prison. De même que les paramilitaires qui se sont démobilisés et qui bénéficient d'un processus, d'un cadre juridique particulier. Alors, tout ça est une très bonne nouvelle pour la Colombie, parce que la paix, c'est toujours une bonne nouvelle. Ce qui est sûr aussi, c'est que les mois qui vont venir seront très très importants pour la quête de vérité. Il y a un registre unique national de victimes qui a été mis en place par le gouvernement pour venir en aide aux civils, qui a déjà enregistré presque 800 374 000 victimes. Hein. Donc c'est énorme, mais c'est une lueur d'espoir pour toutes les familles qui recherchent leur mort et qui ne pourront trouver la tranquillité qu'à partir de ce moment-là. Bon, les disparitions, c'est plus de 60 000 cas qu'on a pu documenter. Les projections qui sont faites par les organisations des droits de l'homme pensent à peu près à 200 000 personnes. Hein. Donc je vais vous lire le témoignage d'une des femmes qui lutte pour, malgré le fait que la paix soit revenue, pour pouvoir justement retrouver les personnes aimées. C'est Luz Elena Galenao, qui a 51 ans et qui a fait partie des personnes dont le mari a été tué. Mon mari a été descendu d'un bus de force par des hommes armés le 9 décembre 2008, près de notre maison familiale. Cette femme a créé le Mouvement national des victimes des crimes d'État. Et elle se bat pour rendre visibles les victimes. Elle n'a bien sûr, depuis 2008, eu aucune nouvelle de son mari. Donc elle cherche, depuis toutes ces années, ce qui a pu lui arriver. Et elle est devenue une des leaders des femmes, d'un mouvement qu'elle a créé, qui s'appelle Mujeres Caminando por la Verdad, les femmes marchant pour la paix. C'est une organisation qui a été lauréate du Prix national de défense des droits de l'homme en 2015. Et qui rassemble des femmes, des épouses, des mères, des compagnes, des filles, des disparues d'un quartier qui s'appelle Comuna 13, le quartier numéro 13. Et donc, grâce à des femmes comme Elena Galenao, voilà, des gens ont pu se rassembler et demander au gouvernement de faire la lumière sur les personnes disparues. Et depuis, très régulièrement, à chaque fois qu'il y a des fosses communes qui sont trouvées et des cadavres exhumés, elles se rendent à l'Institut médico-légal de Medellín pour vérifier si les personnes, les os qu'on a trouvés sont leur mari ou leur frère. Pour l'instant, Luz Elena n'a toujours pas retrouvé son mari, mais elle dit « Il ne faut pas perdre espoir. Le plus important pour moi, c'est de savoir ce qui lui est arrivé. » Voilà, donc on espère pour l'avenir, hein, que ce, ces accords de paix vont vraiment, et cette commission pour la justice va vraiment permettre aux Colombiens de retrouver les personnes disparues et de pouvoir vivre dans une paix durable. Tout ça est très compliqué. La Colombie est un pays qui est corrompu. Il y a énormément de choses à faire. Il faut réformer la police, réformer l'armée, notamment les cadres de l'armée, restituer les terres aux paysans quand elles ont été confisquées. C'est pour ça que la communauté internationale peut peser et doit peser pour que ce processus de paix ne soit pas enterré. Hein. Nous rappelons que le président Obama avait absolument appuyé ce processus de paix et surtout l'avait financé. Parce que bien sûr, tout ça coûte très cher. Parce que ces commissions, ces fosses communes qu'il faut fouiller, tout ça, comme dans chaque pays qui a connu ce genre de processus, est quelque chose qui coûte énormément d'argent. Et les États-Unis avaient beaucoup appuyé ce processus. Donc, on ne sait pas ce que ça va devenir aujourd'hui avec le nouveau président. C'est pour ça qu'on demande aussi, Amnesty demande à la communauté internationale de ne surtout pas interrompre les financements qui vont permettre aux milliers de Colombiens de retrouver un peu de sérénité et de pouvoir vraiment vivre dans un pays en paix. Donc, c'est un dossier que nous continuerons à suivre, et nous souhaitons bonne chance et bon courage à tous les Colombiens qui sont dans ce processus de justice et vérité. Voilà, c'était pour la Colombie. Alors encore quelques informations avant de terminer. Donc on rappelle, hein, nous avons sur notre site amnesty.fr des pétitions, toujours d'actualité, des pétitions sur l'huile de palme et les conditions dans lesquelles elle est extraite, des pétitions pour une pétition pour les journalistes turcs toujours emprisonnés, une pétition pour la liberté d'expression en Égypte. Et puis, vous allez peut-être voir au cours de cet été, quand vous allez aller de festival en festival, le bus d'Amnesty qui s'appelle le bus Welcome. Alors c'est un bus jaune aux couleurs d'Amnesty qui fait une tournée en France et qui va circuler pendant un an, toujours dans le cadre de notre campagne Welcome, accueillons des réfugiés et faisons pression pour les autorités pour que la France soit une terre d'accueil et de liberté. Donc si vous voyez ce bus, surtout n'hésitez pas à monter dedans et à vous informer et à voir ce que vous pouvez faire. Chaque personne peut mettre sa petite goutte d'eau et peut être un acteur important pour cette campagne d'accueil des réfugiés. Et pour finir, notre petite page culture, nous vous recommandons un film toujours actuellement en salle à Montpellier et dans les villes de l'agglo, qui s'appelle « I am not your Negro ». C'est un film de Raoul Peck qui est une réflexion sur les questions raciales aux États-Unis. C'est un film extrêmement intéressant, c'est comme un documentaire qui s'inspire des mots de l'écrivain noir James Baldwin et qui retrace à la fois très brièvement l'histoire des droits civiques aux États-Unis en s'appuyant sur trois personnes, Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King. Et c'est vraiment, c'est passionnant parce que même si ce sont des choses que parfois on connaît, c'est un point de vue à la fois philosophique, à la fois littéraire de James Baldwin. C'est vraiment un hommage, ce film, c'est vraiment un hommage qui reprend des discours et des réflexions d'un homme du passé, mais qui éclaire de façon incroyablement présente sur cette Amérique d'aujourd'hui qui est toujours en prise avec ses démons. Donc on vous recommande très chaudement d'aller voir ce film I Am Not Your Negro, un film passionnant qui joue actuellement au Diagonal à Montpellier et qui sera, j'espère, à l'affiche encore un bon bout de temps. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui pour Amnesty. On vous souhaite un bon été et à bientôt.
Todos os indivíduos privados da sua liberdade devem ser tratados com humanidade e com respeito da dignidade inerente à pessoa humana.
Nós temos o direito de viver, liberdade i do pewności swojej osobowości.
ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ സുരക്ഷിതത്വത്തോടും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം.
L'enfant handicapé a le droit de bénéficier de soins spéciaux ainsi que d'une éducation et d'une formation appropriée pour lui permettre de mener une vie pleine et décente dans la dignité.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Everyone is equal in the eyes of the law and has the right to equal protection by the law.
Die Familie ist das natürliche Element und das Fundament jeder Gesellschaft und hat das Recht auf Unterstützung vom Staat und von der Gesellschaft.
Rodina je prirodzeným prvkom a fundamentom spoločnosti a má právo na ochranu štátom.
Alle Menschen wurden frei und gleich in Wahrheit und Rechte geboren. Sie sind begiftet mit Verstand und Geweten und behoren sich jegens elkander in den Geist von Bruderschaft zu gedragen.